Bonjour, c'est Sonia Kronlund. Les pieds sur terre, c'est des histoires, des enquêtes, des reportages. Et en fin de semaine, je vous propose en bonus des épisodes forts, marquants ou touchants à redécouvrir.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est tout le sens de la fameuse expression « MeToo », moi aussi. Ce n'est pas seulement l'idée de dire, de nommer, de dénoncer, de libérer la parole. Moi aussi, c'est aussi pour partager cette expérience que seuls peuvent comprendre celles qui l'ont vécue. Se réchauffer le cœur en se disant qu'on n'est plus seul, se serrer les coudes, avancer ensemble. Pas seulement on te croit, mais on te comprend, on sait. C'est l'émotion qui nous a saisis en voyant sur le plateau du live de Mediapart ce 10 mai 2022, 20 femmes assises à côté, c'est beaucoup 20, qui disaient avoir vécu la même chose du même homme, sœurs de misère, sœurs d'infortune, plus fortes ensemble, un bloc tout d'un coup solide, visible, soudé. C'est aussi le moment pour les victimes de sortir de ce statut en se redressant, droite, d'un seul homme, dit l'expression étrangement trouvée. C'est ça qu'on raconte aujourd'hui, deux histoires de femmes qui ont trouvé des sœurs de plainte et ce que ça leur a fait. Karine Lelouette est allée les rencontrer et je vous préviens que cette émission contient des scènes d'agression sexuelle qu'il ne faut pas mettre entre toutes les oreilles.
Je suis Camille, j'ai 31 ans. J'ai commencé le théâtre quand j'étais à l'école primaire. Et j'en ai toujours fait. C'était toujours un truc qui faisait partie de ma vie. Et après, j'ai fait le conservatoire. Dès que j'ai pu rentrer, j'ai passé le concours. En 2012, du coup, quand j'étais au conservatoire, j'ai subi du harcèlement sexuel et puis un viol d'un metteur en scène qui travaillait avec le conservatoire à cette époque-là. En fait, c'était quelqu'un qui intervenait. Du coup, on avait des stages avec lui dans le cadre du conservatoire. Et à un moment donné, il m'a proposé de travailler mes scènes avec lui. Parce qu'il m'a dit, t'es super, t'es vraiment génial, je pense que t'as un truc. Et il m'a proposé que à moi et j'étais hyper flattée. Donc, il me faisait répéter le soir... à la fin du travail, quoi. Et un coup, il m'a coincée dans un coin et il m'a embrassée en faisant le rôle de mon partenaire de jeu, quoi. Après, j'étais trop mal, mais bon, voilà, j'ai un peu passé dessus en me disant, bon, il a essayé un truc, moi, j'ai pas envie. Et après, ouais, il m'a dit qu'il avait des projets desquels il voulait me parler... Et il m'a invité à venir boire un coup chez lui pour en parler. J'ai hésité un peu, puis je me suis dit, bah vas-y, j'y vais. Peut-être qu'il va me proposer un truc cool, quoi. Et en fait, j'ai rien compris à ce qu'il voulait me proposer. Je comprenais pas bien avec qui c'était ce projet. Enfin, j'étais là, je restais, j'écoutais, puis il me resservait des verres de vin. Et là, il a commencé à me dire des trucs sur moi, que j'étais vraiment une bonne comédienne. Il m'a dit « répète après moi, je vais devenir une grande comédienne ». Et puis, il a commencé à me dire que j'étais bien sur scène, mais quand même, j'avais tendance à crisper les épaules, il faudrait que je me détende. Puis, il m'en servait des verres de vin tout en me disant ça. Et puis, en fait, à un moment donné, il m'a dit « ah, mais peut-être je pourrais te faire un massage dans la chambre, ça te détendrait quand même ». Mais du coup, moi, je dis « ah non, bah, ça va, je vais rentrer, c'est bon ». Je me levais, j'essayais de partir, et puis... Puis j'étais un peu aussi de plus en plus sous, quoi, à force de boire des verres de vin sans me rendre compte. Et en fait, je me suis retrouvée dans sa chambre, quoi. Je pense que j'étais comme une plaque de béton sur son lit. Ce truc dont je me souviens, c'est quand j'ai un peu sorti de la sidération. J'étais à plat ventre et à un moment donné, j'ai genre réalisé que j'avais plus d'habits sur moi. J'ai tourné la tête et en fait, c'est un détail horrible, sordide, mais il était avec une lampe de poche en train de regarder l'intérieur de mon sexe. Et là, j'ai eu un réveil et j'ai mis tous mes habits, je me suis cassée. Et puis, il m'a fait la bise à la porte. Je descends les escaliers, je pars, et je rentre chez moi et là, j'ai tout oublié, quoi. On est en 2016, 4 ans après. Ça ressurgit parce que je suis en école de scénographie à Nantes. Et je sais pas, on a parlé avec une copine et elle m'a raconté son histoire. Une histoire d'inceste intrafamilial. Et là, elle disait des mots et les mots qu'elle utilisait, ça me faisait écho, quoi, à plein d'endroits. L'admiration, le « je suis pas sûre que ça a existé », ça fait comme un cauchemar, un rêve, je sais pas trop. Je sens que j'ai honte. C'est ces souvenirs qui ont ravivé les miens, quoi. Et là, je lui ai dit, je crois qu'il m'est arrivé un truc pareil. Et quand je suis revenue habiter en Lorraine, j'en ai parlé à des gens. Puis ils m'ont dit, ah ouais, tout le monde disait un peu un truc de, ah bah de toute façon, il a des casseroles au cul. Alors cette expression, elle me faisait trop bizarre. Les casseroles au cul, je suis une casserole au cul. Alors du coup, ça veut dire que tout le monde sait un peu des trucs. Et là, il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais en fait, tu crois pas que ça arrivait à d'autres personnes? Et là, d'un coup, ça m'a fait comme un truc d'évidence que oui, certainement. Et d'un coup, je me suis dit, il faut que j'écrive à toutes les personnes du conservatoire pour savoir. J'ai envoyé un mail, le même mail à plein de copines du conservatoire, en leur disant, j'ai des choses plus ou moins drôles dont je voudrais parler avec toi, est-ce que c'est possible ? Du coup, j'ai eu plein de petites histoires comme ça, qui venaient d'agressions sexuelles, en fait. Et une copine que j'avais pas vue depuis longtemps qui a mis du temps à me répondre. Et une fois qu'on s'est eu au téléphone, elle m'a dit... Bon, en fait, j'ai su direct pourquoi tu m'envoyais ce mail. Quand t'as dit des choses plus ou moins drôles, j'ai compris. Et elle m'a dit qu'il lui était arrivé un truc pareil. Il l'avait invité chez lui et... Il y avait un musicien qui était là, il travaillait sur le même projet. Et le musicien, en fait, partait juste... Et du coup, elle s'est rendue compte que c'était un traquenard, quoi, qu'elle se retrouvait toute seule avec le metteur en scène. Pareil, il a essayé de la tenir et tout, mais bon, comme elle venait d'arriver, elle a inventé un truc qu'elle devait partir, en fait, et elle s'est barrée. Mais elle m'a dit, j'ai senti le danger qui montait. C'était important de savoir parce que le fait de savoir, ça rend la chose plus vraie peut-être. On est toujours dans le doute de ce qu'on a vécu, enfin ce mélange de doute, de honte et d'incompréhension. Et en fait, on a besoin des témoignages des autres personnes pour confirmer. Si une autre personne l'a vécu aussi, de la même personne, c'est que c'est un système. Quand les autres, elles disent des détails sur... sa personnalité, sur comment il a agi, sur les mots qu'il a utilisés. D'un coup, tu fais « Ah ouais, mais c'est ça, je vais faire de toi une grande comédienne. » Elles sont plusieurs, tu vois, à avoir dit exactement les mêmes mots. Puis quand tu vois ça de loin, tu te dis « Mais ça semble tellement cliché. » Enfin, bon, bref, ça permet de se souvenir. Mais à chaque fois, tu te remets dans la situation. Après avoir mené cette enquête, je me suis dit « En fait, il ne peut plus travailler, c'est pas possible. Enfin, c'est trop dangereux. » Il faut qu'on fasse un truc, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que ces témoignages sortent quelque part. Et j'ai appelé plein de journalistes pour leur demander de faire sortir les témoignages. Et en fait, plein de fois, on m'a répondu que tant qu'il n'y avait pas de plainte, c'était pas possible. Donc j'ai porté plainte en novembre 2020. J'ai été au commissariat. Ça a duré 4 heures dans un tout petit bureau avec un mec qui prend la plainte... Et puis, il te montre les dossiers sur la table en disant « Oh, vous savez, j'en ai plein d'autres affaires. » Il m'a même dit qu'il ne fallait pas trop croire en la justice. Et je me disais « Mais... » Voilà, j'ai porté plainte. Et puis, je suis tombée sur la personne qui s'était occupée des affaires du conservatoire de Rennes, de Besançon. Je rencontre cette journaliste. Et là, elle me dit « C'est d'accord. » Enfin, si vous vous mettez d'accord avec les personnes qui ont témoigné, je prends le relais, quoi. Et puis elle a continué à enquêter. 2021, l'article sort. Et en fait, c'était terrible parce qu'il y avait de nouveaux témoignages dans l'article. Un nouveau témoignage de viol que je connaissais pas. Et suite à l'article, j'ai reçu aussi des appels. Et il y en a une qui m'a raconté toute l'histoire de son viol avec le même agresseur. Et qui m'a dit « Ah mais par contre, moi, je porterai pas plainte. J'ai un enfant, j'ai machin, j'ai une vie de famille. » Et ça m'a fait hyper mal d'entendre ça. Moi, j'ai pris sur mon temps, ma vie, mais c'était nécessaire, quoi. Je pense que c'était aussi de la réparation. Mais je trouvais ça hyper dur de recevoir ça. Et là, ça continuait. Enfin, je recevais des trucs et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, à quel moment ça s'arrête? Et suite à l'article, le hashtag MeTooTheatre est lancé par un collectif. Et là, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'ai envie d'aller à Paris rencontrer les personnes du MeTooTheatre. Je me suis dit, j'ai envie de voir qui c'est, ou j'ai envie qu'on se parle, quoi. Ça donne quoi dans le réel? Et du coup, j'ai rencontré Marie-Cookie Chambel dans un bar. Après, j'ai vu les autres qui avaient témoigné aussi sur le hashtag. Ça m'a fait une impression de... Ouais, on est plusieurs et c'est devenu plus grand. C'était plus grand que mon histoire, en fait. Enfin, c'était un passage de relais aussi. Pour moi, c'était « Ok, maintenant, je peux faire une pause ». J'ai l'impression que les autres comédiennes qui avaient témoigné ou qui ont subi des choses de la part de mon agresseur, elles ont été présentes au moment où il a fallu faire les témoignages. J'ai senti que ça allait remuer très fort d'en parler. Et du coup, elles se sont peut-être un peu tenues à distance pour pas être trop atteintes, je pense. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de quand même partager avec des personnes qui avaient un vécu commun. Et notamment bah, cette copine de 2016, enfin, avec personne d'autre, je peux partager ça. Parce que tant que tu l'as pas vécu dans ta chair, je crois que tu comprends pas pourquoi il y a des choses qui se passent au niveau de tes rapports aux autres gens, la perte de confiance, la peur du toucher, le désir qui est plus là, ou qui revient peut-être un peu, mais c'est hyper fragile. Enfin, on peut parler de toutes ces petites choses de la vie qui sont un peu intimes et qui sont dues à ces souffrances-là. On peut se parler de la justice qui prend 3 plombes à faire des trucs, de se rassurer sur « bah oui, bon, bah c'est comme ça, la justice, ça marche pas ». Mais quand t'en parles avec des gens qui l'ont pas vécu, ils te regardent avec un regard de pitié ou de « je sais pas quoi faire » et puis ça devient dramatique. Et c'est vrai que quand on parle avec des personnes qui... ou même on se l'est pas dit, mais en fait on sait qu'on a ce vécu-là commun. On se parle plus légèrement et du coup ça permet aussi de, parfois même de pouvoir en rire. En tout cas, on peut sortir de ce statut de victime. Moi, enfin, l'affaire, déjà c'était il y a 10 ans et ça fait quand même 2 ans que j'ai porté plainte. Du coup, enfin, il y a un moment, ma vie, elle continue. En fait, je vis pas tous les jours ce truc de victime. Je vis des trucs chouettes, quoi. Et du coup, j'ai pas envie d'être que ça. Avec d'autres victimes, enfin des personnes qui ont été victimes d'ailleurs, j'ai moins l'impression de l'être. Et ça, c'est un peu fou. Moi qui ai 3 sœurs, il y a un truc qui ressemble. Je pense qu'il y a un genre de lien comme ça, très fort, de faire les choses ensemble et de se suivre. Enfin, je sais pas, je sens que c'est un truc qui peut durer longtemps, quoi. Et ouais, sœurs. Sœur vivante, quoi. Enfin, un petit jeu de mots avec survivante, mais on n'est pas que des survivantes.
Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Marie Levacon, j'ai 35 ans et j'habite dans le sud. Le 4 novembre 2012, je suis allée à Toulouse pour fêter l'anniversaire d'une amie qui m'est très proche et très chère. Et je suis rentrée à pied chez mon amie, donc, qui m'attendait avec d'autres amis avec qui on avait passé la soirée. Et c'est vraiment à la toute fin du trajet, puisque c'est quasiment devant la porte, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière moi. En fait, j'ai entendu des pas dans les feuilles mortes. Et du coup, je me retourne et je vois un jeune type. Il m'a demandé où est-ce que était un quartier de Toulouse, donc en l'occurrence l'Union. Bon, moi, je lui ai dit, écoute, je sais pas. Il m'a dit, ouais, mais je suis vraiment en galère, est-ce que je peux pas dormir dans le hall? Bon, je lui ai dit, écoute, mon petit bonhomme, non, c'est pas chez moi, j'ai pas envie que ma copine est emmerde. Et donc, non. Sauf qu'il s'est penché vers moi, et il est assez grand, et puis moi, je suis plutôt petite. Et en fait, il m'a prise dans ses bras, et il m'a dit, fais-moi un câlin. Donc là, je me suis dit qu'il était franchement lourd. Je le repousse, mais voilà, gentiment. Et là, déchaînement de violence, mais en instantané, quoi. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Donc, je me suis réveillée une première fois, j'étais au sol. Et il était à califourchon sur moi, en train de m'étrangler, donc avec ses deux mains sur mon cou. Et il a commencé à me violer, voilà, sous l'effet de la strangulation. J'ai fini par perdre connaissance. Et je me suis réveillée, donc pour la deuxième fois, dans une boîte noire. J'ai essayé de me mettre debout, j'ai senti que j'étais coincée dans un truc. Et du coup, j'ai tapé toutes mes forces bah, pour sortir, quoi. Et en fait, c'était le couvercle d'une benne à ordures. Je suis arrivée à sortir de cette benne. À partir de là, c'est mes amis qui m'ont ramassée. Eux, ils m'attendaient. Et en fait, je crois qu'ils ont entendu que je criais dans le couloir, à l'étage. Je suis allée aux urgences avec les ambulanciers. Je sais que ma mère suivait derrière. Et puis, en fait, les policiers ont demandé à ce que je dépose plainte le soir même. Donc, c'est vers 22h que je me suis retrouvée au commissariat de Toulouse. Je crois de mémoire que j'ai dit dans mon dépôt de plainte que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'être flic pour se douter que quand on commence à camoufler un cadavre et qu'on s'enfuit comme ça, c'est pas juste un petit pétage de plomb, c'est voilà, là, il y a quand même une certaine forme de structure dans le passage à l'acte, on va dire. Il a été arrêté 4 jours après. Il était déjà connu des services de police et il avait laissé de l'ADN sur la poignée intérieure du local poubelle. Tout de suite, il y a cette espèce de solitude, en fait, dans le vécu de la chose. Et malgré cette espèce de solitude, on sent aussi que on est nombreuses et nombreux sur le même bateau. Parce que moi, je me souviens avoir reçu des mails et des textos et des appels des gens que je connaissais pas très bien qui m'ont dit, bah voilà, ça va aller, t'en fais pas, moi aussi. Et ouais, le moi aussi, bah ouais, il est sorti assez vite. Mais je pensais pas que ça allait être un moi aussi, finalement, qui collait à ma première impression, que c'était pas quelqu'un qui en était à son coup d'essai. Et que le moi aussi, j'allais le partager un grand nombre de fois. Par le biais du SALVAC, donc c'est le système qui permet de recouper un peu le modus operandi, la description physique, les particularités comme ça d'une affaire, on va dire, avec d'autres, et qui ont permis finalement de découvrir une autre victime. Mais du coup, pendant 2 ans presque d'instruction, au fur et à mesure, voilà, il y en avait une autre, et encore une autre, et encore une autre, comme un peu un mauvais tour de magie avec les lapins blancs là qui sortent du chapeau à répétition. Et à la fin, là, ça fait carrément un élevage. Et ben voilà, nous, on est un petit élevage de petits lapins blancs. On est 7 connus, reconnus par la justice comme étant victimes de Florian Varin. J'apprends l'existence comme ça de chacune d'entre elles par la consultation du dossier en fait. Les premières choses moi que j'apprends d'elles, c'est ce qu'elles ont vécu de similaire à moi. Je découvre leur prénom, je connais leur visage aussi parce que j'ai vu des photos, les photos de là où elles ont pris des coups. Moi c'est ces visages-là que j'ai vus en premier quoi. Donc c'est une drôle d'introduction on va dire. Enfin drôle c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas. C'est comme ça que j'apprends leur existence. Et ce que j'apprends de leur existence, bah, c'est ça. C'est leur viol. Jusqu'au moment où je les rencontre. C'était à Toulouse, on n'y était pas toutes. C'est une confrontation dite générale, et c'est à sa demande, à Monsieur Varin. Et donc, voilà, nous, on prend tout l'avion, on avance des billets, etc., des nuits d'hôtel et compagnie, pour se retrouver dans un tout petit bureau, avec la juge, greffier... chacune de nos avocats, et jusqu'au moment où ils vont le chercher, et donc voilà, je le revois là, dans l'encadrement de la porte, et je sens à côté de moi qu'elle tressaille tout autant que moi, et finalement, en fait, ça donnait un côté réel à tout ça, là, et j'avais pas halluciné, ouais. Et ça, c'est elles qui me font prendre conscience de ça. Donc je sais même pas si on s'est parlé à ce moment-là, mais on s'est déjà comprise, je pense. Et finalement, il y a enfin le premier procès à Toulouse. Et chacune arrive en fait de son côté, quoi. Voilà, avec soit sa famille, son mec, sa tante, son assistante sociale, voilà, pour une. Et finalement, en fait, c'est sur les bancs comme ça de la cour d'assises qu'on s'est rapprochés. Peut-être un peu la trouille, la colère, le dégoût, il y a tout qui est partagé là, pour de vrai. Finalement, malgré tout le soutien qu'on peut recevoir, il n'y a personne d'autre à ma place. Sauf elle. Moi, j'ai un coup de chance, en fait, entre guillemets, c'est que mes études de droit vont me permettre de comprendre le gros du déroulé, mais pas elle. Et voilà, on se croise, en fait, à chaque suspension d'audience. On se croise et on se parle de plus en plus. Et puis, j'essaye de leur expliquer ce qui se passe après, ce qui se passe encore après, quand est-ce qu'on va parler de ci, quand est-ce qu'on va faire ça. Et finalement, voilà, je leur fais un genre de Google Trad juridique. Donc, c'est comme ça, ouais, qu'on noue vraiment contact. Même dans le glauque, finalement, il en ressort un truc cool, quoi. C'est qu'il y a cette espèce de lien, comme ça, entre nous, qui fait que on n'est pas seul. Je sais, elles savent, on sait qu'on est là. Je pense que c'est au moment du verdict qu'on s'est toutes retrouvées exactement sur le même banc. Cette fois-ci, on n'était plus à côté de nos proches, qu'on était agglutinées toutes sur le même banc. Il a pris, donc, 30 ans. 30 ans de prison et une rétention de sûreté. J'étais certaine qu'il allait faire appel. Il a fait appel. Et je pense que là, pour nous, on avait peut-être un peu besoin de rentrer chez nous. Parce que c'est quand même une sacrée semaine à passer. Et en même temps, on avait besoin, je pense, les unes des autres. On s'était échangé nos numéros et voilà. Et puis ça s'est fait assez naturellement, finalement, de manière à ce que, bah, on soit en contact plus régulièrement. Je pense qu'au début, voilà, on était plutôt en lien vis-à-vis du deuxième procès, des remboursements, de déplacements, de cours d'assises, bref, des trucs très, très pratiques ou très juridiques. Et puis finalement, petit à petit, en fait, bah, bêtement, on s'entend bien, en fait. On n'est pas juste des nanas qui ont été violées par le même mec. On est devenus amis. Donc du coup, le tout cumulé, ça fait que bah, petit à petit, voilà, comment ça s'est passé la rentrée, comment ça s'est passé le retour au taf, finalement comment ça va avec ton mec, et comment ça va avec ta mère, et avec ton père, et avec ton pote, et avec ton frère, etc. Et puis finalement, se rendre compte aussi petit à petit que au-delà de l'agression, il y a aussi toutes les conséquences, hein, qui en découlent. Et on s'est apporté du réconfort, du soutien, de l'écoute aussi, et peut-être des conseils aussi qui étaient bienvenus, voilà, que peut-être on n'accepte pas forcément de la part des autres. Il y a eu deux autres procès, puisqu'il y a eu un premier procès en appel à Albi en 2018, et après cassation du procès d'Albi, le troisième a eu lieu à Montauban en 2021. Et évidemment, ça fait des étapes supplémentaires, ça fait du temps surtout, qu'on a partagé. Bah, ça fait des liens qui se créent aussi de manière plus profonde encore. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient un peu indéfectible. Même complètement indéfectible. Genre, moi, il faut pas me les enlever. Je les aime, hein, ces nanas-là, donc... Ouais, ça devient un peu comme des sœurs, quoi, où on a envie de dégommer celui qui a touché à un cheveu d'elle. C'est une team, tout le monde est important. C'est un peu la seule chose que j'ai gagnée là-dedans. C'est ça, c'est elle, c'est ce groupe, c'est cette espèce de un peu une petite porte de sortie à tout ça. Je sais pas, ça fait comme un peu un filet de sécurité rigolo, quoi. Voilà, il y a ce groupe, je sais que je peux écrire, je sais qu'elles sont là. Entre chaque procès, on s'est jamais vus. C'est surtout depuis, en fait, la fin de la procédure pénale. Je sais pas, c'est comme si ça avait un peu enlevé une chape de plomb comme ça sur notre relation, et effectivement on s'est retrouvés pour un week-end de filles, un week-end genre normal en fait, où on n'avait pas comme ça ce truc de dire bon bah allez on boit un verre et demain il y a audience de machin, c'est qui passe demain, c'est toi à la barre, non c'est toi, ah, oui non je sais plus, moi je passe à 13h, l'autre je passe à 15h. Bah là non, on a eu un week-end à nous sans lui, ouais voilà, pour une fois c'est pas mal. Et du coup on parle pas forcément que de lui hein, non plus, parce que tant mieux pour nous, on a autre chose à partager que lui dans nos vies. Et du coup non, on a passé un super week-end de nana quoi. Un week-end où on a ni mec, ni enfant, ni parents, ni violeur, ni rien du tout. Juste nous, voilà, comme des filles normales. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name.
C'était Sœur de plainte, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Étienne Gracianette. Merci à Camille, Marie, Julie, Clotilde, Oriane, à Maître Anne Lassalle et particulièrement à Alizée Vincent qui est journaliste à Causette et qui a écrit un article intitulé Sœur de plainte dont cette émission s'est largement inspirée. Merci à elle. Attachée de production Céline Paris et notre stagiaire c'est Flavie Champion. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my